Dixième partie. Parler avec l'ennemi. Paulsmoor, la prison de sécurité maximale, est située à la limite de Tokai, une banlieue blanche et riche, avec des pelouses vertes et des maisons confortables, à quelques kilomètres au sud-est du Cap. La prison elle-même se trouve au milieu du décor admirable de la baie du Cap, entre les montagnes de Constantia Berg, au nord, et les centaines d'hectares de vignobles au sud. Mais cette beauté naturelle nous restait invisible derrière les hauts murs de Paulsmoor. C'est là que j'ai compris pour la première fois le vers obsédant d'Oscar Wilde sur la tente bleue. C'est ainsi que les prisonniers désignent le ciel. Paulsmoor a un visage moderne, mais un cœur primitif. Les bâtiments, en particulier ceux du personnel de la prison, étaient propres et récents, mais les logements des prisonniers vieux et sales. En dehors de nous, il n'y avait que des prisonniers de droit commun, que l'on traitait de façon archaïque. Nous étions séparés d'eux et nos conditions étaient différentes. Ce n'est que le lendemain matin que nous avons vraiment vu notre environnement. Nous étions logés tous les quatre dans une pièce spacieuse construite sous le toit du troisième et dernier étage de la prison. Les seuls prisonniers à ce niveau. La pièce principale, rectangulaire, était propre, moderne, et mesurait environ 15 mètres sur 10. Et il y avait une partie séparée avec des toilettes, un miroir, deux lavabos et deux douches. Il y avait quatre lits convenables avec des draps, des serviettes. Un luxe incomparable pour des hommes qui, depuis 18 ans, dormaient sur une natte posée par terre. Après Robben Island, nous nous trouvions dans un hôtel 5 étoiles. Nous avions aussi notre terrasse en plein air, en forme de L, longue comme la moitié d'un terrain de football, et nous avions le droit d'y aller pendant la journée. Il y avait tout autour des murs blancs en ciment de 3,50 m de haut, si bien que nous ne pouvions voir que le ciel, sauf à un angle où nous apercevions les crêtes de Constantia Berg. Être transplanté aussi brusquement et sans explication était très perturbant. En prison, on doit se préparer aux changements précipités, mais on ne s'y habitue jamais. Nous étions maintenant sur le continent, mais nous nous sentions bien plus isolés. Pour nous, l'île était devenue le centre de la lutte. Nous trouvions une consolation dans la compagnie des autres et nous avons passé les premières semaines à nous demander pourquoi on nous avait transférés. Nous savions que depuis longtemps, les autorités n'aimaient pas et même redoutaient l'influence que nous avions sur les prisonniers plus jeunes. Mais la raison semblait plus stratégique. Nous pensions qu'elles cherchaient à décapiter l'ANC sur l'île en transférant la direction. Robben Island était devenu un mythe qui renforçait la lutte et elle voulait lui ôter de sa signification en nous déplaçant. Une de nos hypothèses a semblé se confirmer quelques mois plus tard quand Cathy nous a rejoints. Il était bien membre du haut commandement. Plus important, Cathy avait été responsable des communications et c'était grâce à son travail que nous avions pu communiquer avec les jeunes prisonniers qui arrivaient. Nous nous trouvions maintenant dans un monde de ciment. La beauté naturelle de Robben Island me manquait. Mais nous avions beaucoup de consolation. Tout d'abord, à Paulsmoor, la nourriture était bien supérieure. Nous avions le droit de recevoir un large éventail de journaux et de magazines, ainsi que des publications autrefois de contrebande, comme Time et le Guardian hebdomadaire de Londres. Cela nous ouvrait une fenêtre sur le monde. Nous avions aussi une radio, mais elle ne recevait que les stations locales, et pas ce que nous voulions, le service international de la BBC. Nous avions le droit de passer toute la journée sur la terrasse, sauf entre midi et 2 heures, quand les gardiens prenaient leur repas. Nous n'avions même pas besoin de faire semblant de travailler. J'avais une petite cellule, à côté de la grande qui me servait de bureau, avec une table, une chaise et des étagères où je pouvais lire et écrire pendant toute la journée. En mai 1984, j'ai reçu une visite de Winnie et de Zenny, accompagné de sa petite fille. Le sergent Grégory m'a conduit au parloir, mais au lieu de me réinstaller au même endroit que d'habitude, il m'a fait entrer dans une petite pièce où il y avait une table et aucune séparation. Il m'a dit très doucement que les autorités avaient introduit un changement. Ce jour-là commencèrent ce qu'on appelait les visites contacts. Il est sorti chercher ma femme et ma fille et a demandé à Winnie de lui parler en privé. Elle a eu très peur quand Grégory l'a prise à part, parce qu'elle a pensé que j'étais malade. Mais Grégory lui a fait franchir une porte, et avant que nous le sachions, nous étions dans la même pièce et dans les bras l'un de l'autre. J'embrassais et je serrais ma femme contre moi pour la première fois depuis tant d'années. C'était un instant dont j'avais rêvé un millier de fois. J'avais l'impression de rêver encore. Je l'ai gardée dans mes bras pendant ce qui m'a paru une éternité. Nous étions immobiles et silencieux, et l'on n'entendait que le bruit de nos cœurs. Je ne voulais pas la laisser partir. Mais j'ai ouvert les bras pour embrasser ma fille, et j'ai pris son enfant sur mes genoux. Il y avait 21 ans que je n'avais pas touché la main de ma femme. À Paul's Moor, nous étions plus en relation avec les événements du monde extérieur. Nous savions que la lutte s'intensifiait, l'ANC connaissait une nouvelle popularité. Les sondages d'opinion montraient que le Congrès était encore et de loin la plus populaire des organisations politiques parmi les Africains, même après un quart de siècle d'interdiction. La lutte anti-apartheid dans son ensemble avait mobilisé l'attention du monde. En 1984, l'archevêque Desmond Tutu recevait le prix Nobel de la paix. Les autorités refusèrent d'envoyer ma lettre de félicitations à l'archevêque. Le gouvernement sud-africain subissait une pression internationale de plus en plus forte, à une heure où les nations du globe commençaient à imposer des sanctions économiques à Pretoria. Au cours des années, le gouvernement m'avait envoyé des éclaireurs. Il ne s'agissait pas d'offres de négociation, mais de tentatives pour m'isoler de mon organisation. Je ne répondais pas à ces ouvertures, tout en considérant le simple fait que le gouvernement me parle plutôt que m'attaquer, comme le prélude à des négociations. Le gouvernement tâtait le terrain. Un jour, en 1985, le général Munro m'a dit sur le ton de la conversation courante « Mandela, à partir de maintenant, vous allez être seul. » Je lui ai demandé pourquoi. Il a secoué la tête. « Je ne sais pas. Je viens de recevoir des instructions du quartier général. » Une nouvelle fois, il n'y avait ni avertissement ni explication. On m'a conduit dans une cellule du rez-de-chaussée, 3 étages plus bas, et dans une autre aile. On m'a donné 3 pièces et une salle de bain indépendante. Une chambre, une pièce pour travailler et une pour faire mes exercices. Un vrai palais, d'après les critères de la prison. Mais l'appartement humide sentait le moisi et recevait très peu de lumière du jour. Je n'ai rien dit au général parce que je savais que ce n'était pas lui qui avait pris la décision. J'avais besoin de temps pour réfléchir aux conséquences de ce déménagement. Ce serait trop fort d'appeler cela une révélation, mais au cours des jours et des semaines qui ont suivi, j'ai pris conscience de ma nouvelle situation. J'ai décidé que ce changement n'était pas une contrainte, mais une nouvelle possibilité. J'ai résolu de la consacrer à une chose à laquelle je réfléchissais depuis longtemps, entamer des discussions avec le gouvernement. J'en étais arrivé à la conclusion que maintenant, la lutte pourrait mieux progresser par les négociations. Si nous n'engagions pas rapidement le dialogue, les deux parties seraient bientôt plongées dans la nuit de l'oppression, de la violence et de la guerre. L'heure des pourparlers était venue. La décision de parler avec le gouvernement était d'une telle importance qu'elle ne pouvait être prise qu'à Lusaka. Mais je sentais que le processus avait besoin de démarrer et je n'avais ni le temps ni les moyens de communiquer avec Oliver. Quelqu'un de notre côté devait faire le premier pas. Or, ma solitude nouvelle m'en donnait la liberté ainsi que l'assurance, au moins pendant quelque temps, que mes tentatives resteraient confidentielles. J'ai décidé de ne parler à personne de ce que j'avais l'intention de faire. Ni à mes camarades du troisième étage, ni à ceux de Lusaka. L'ANC est une organisation collective, mais dans ce cas, le gouvernement avait rendu impossible cet aspect collectif. Je n'avais ni la sécurité, ni le temps nécessaire pour discuter de ces questions avec mon organisation. Je savais que mes camarades du troisième étage condamneraient ma proposition et qu'ils tueraient mon initiative dans l'œuf. Il y a des moments où un responsable doit marcher en avant du troupeau, partir dans une nouvelle direction, en se fiant à lui-même pour s'assurer qu'il mène son peuple sur le bon chemin. En fin de compte, mon isolement fournissait une excuse à mon organisation au cas où les choses tourneraient mal. Le vieux était seul, complètement coupé de tout, et ce qu'il avait fait, il l'avait fait seul, en tant qu'individu, pas en tant que représentant de l'ANC. Quelques semaines après mon déménagement, j'ai écrit à Kobi Coetzee, le ministre de la Justice, pour lui proposer des pourparlers. À propos des pourparlers. Comme d'habitude, je n'ai pas reçu de réponse. Je lui ai écrit de nouveau, toujours en vain. J'ai trouvé cela bizarre et démoralisant, et j'ai compris que je devais saisir une occasion propice pour être entendu. Elle se présenta au début de 1986. Oliver Tambo et l'ANC avaient appelé le peuple d'Afrique du Sud à rendre le pays ingouvernable, et le peuple répondit à l'appel. Les troubles et les violences politiques s'amplifièrent encore. Rien ne pouvait plus contenir la colère des masses. Les townships étaient en état de soulèvement, et les pressions internationales s'accentuaient chaque jour. Le 12 juin 1986, le gouvernement imposa l'état d'urgence afin d'étouffer les protestations sous un couvercle. Le moment semblait peu propice à des négociations. Mais souvent, les périodes les plus décourageantes sont précisément celles où l'on doit prendre une initiative. C'est alors que les gens recherchent un moyen de sortir de l'impasse. Ce mois-là, j'ai écrit une lettre très simple au général Willemse, le commissaire des prisons. J'y disais « J'aimerais vous voir pour une question d'importance nationale ». J'ai remis la lettre au général Munro un mercredi. Pendant le week-end, le commandant m'a dit de me tenir prêt à rencontrer le général Willemse, qui arrivait de Pretoria. Cette visite ne se déroula pas comme d'habitude. Au lieu de voir le général au parloir, on m'a conduit à sa résidence, à l'intérieur même de Paulsmoor. Willemse est un homme direct, et nous sommes entrés immédiatement dans le vif du sujet. Je lui dis que je voulais voir Kobi Coetzee, le ministre de la Justice. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu franchement, « Je veux voir le ministre afin de poser la question des discussions entre le gouvernement et l'ANC. » Quelques minutes plus tard, nous quittions la résidence du général Willemse dans sa voiture pour aller chez le ministre au Cap. Coetzee m'a accueilli chaleureusement dans sa résidence officielle et nous nous sommes installés sur des fauteuils confortables dans son salon. On nous servit du thé. Il s'est excusé de ne pas m'avoir laissé le temps de quitter ma tenue de prisonnier. Nous avons parlé pendant 3 heures, tout au long desquelles j'ai été frappé par son sérieux et sa bonne volonté. Ces questions allaient au cœur des problèmes entre le gouvernement et l'ANC. J'ai eu l'impression que Coetzee voulait une proposition concrète. « Quelle est l'étape suivante ? » m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu que je voulais rencontrer le président et le ministre des Affaires étrangères, Pik Botha. Coetzee a noté cela sur un petit bloc qu'il gardait près de lui et m'a dit qu'il allait transmettre ma demande. Nous nous sommes serré la main et on m'a raccompagné dans ma cellule solitaire au rez-de-chaussée de la prison de Paulsmoor. Je me sentais très encouragé. J'avais l'impression que le gouvernement voulait sortir le pays de l'impasse où il se trouvait, et que maintenant il avait la conviction qu'il devait abandonner ses anciennes positions. De façon tout à fait imprécise, je voyais se dessiner un compromis. Je n'ai parlé de ma rencontre à personne. Je voulais que le processus s'engage avant d'en informer qui que ce soit. Parfois, il est nécessaire de présenter à ses camarades une politique qui est déjà un fait accompli. Je savais qu'une fois qu'ils auraient étudié attentivement la situation, mes camarades de Paul Smoor et de Lusaka me soutiendraient. Mais de nouveau, ce début prometteur ne donna rien. Des semaines et des mois passèrent sans un mot de Coetzee. Un peu découragé, je lui ai écrit une autre lettre.